Vous allez écouter un reportage réalisé grâce au soutien du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, SMAEV, dans le cadre d'un appel à projet éco-citoyenneté et solidarité à l'école.
Nous sommes les élèves de la classe de CE2 de l'école Jean Moulin de Pernes-les-Fontaines.
Nous nous trouvons actuellement au musée du costume contadin et nous sommes en compagnie de Madame Gabert. Bonjour.
Bonjour. Je vous remercie d'être venue nous voir et je remercie aussi la maîtresse de vous faire participer à la découverte de notre culture provençale.
Vous êtes présidente du conservatoire du costume contadin et nous sommes en compagnie aussi de Madame Michel, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes adhérente de l'association.
Nous allons commencer par quelques questions sur le musée. Depuis quand ce musée existe-t-il ?
Le magasin Drapier existe depuis 1992. Donc ça, c'est car la mairie a racheté les bâtiments et en a fait un musée. Maintenant, si c'est après la maison du costume, c'est-à-dire la maison entière, où nous avons fait notre musée du costume, ça, c'était en 2008.
Qui a eu l'idée de ce musée ?
Alors, ce musée, ça a été un petit peu compliqué. Vous savez que tous les 4 ans, il y a la fête du patrimoine à Pernes où tous les gens se costument entre 150 ans et 200 ans en arrière. Et la mairie avait décidé d'aider les personnes à réaliser leurs costumes. Donc, il y avait un petit groupe de personnes qui aidaient les gens à faire leurs costumes. Et ça a tellement bien marché qu'on a décidé de monter une association pour créer le musée.
Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs ?
Alors, en 2018, il y a eu 5189 visiteurs. En 2019, 5524. Et cette année, à mon avis, avec les journées du patrimoine, le chiffre va beaucoup augmenter.
Quels étaient les tissus utilisés pour fabriquer les vêtements ?
Alors, je pense que tu me parles des vêtements d'il y a très longtemps. Des vêtements qui ont au moins 200, 150 ans maintenant. Alors, les tissus qui étaient utilisés, c'était des tissus en lin, en chanvre, en soie, en laine, en coton. Il n'y avait pas de nylon, on n'en parle pas, ça n'existait pas.
En classe, nous avons regardé comment s'habillaient les gens avant. Nous avons vu que les tenues et les couleurs étaient différentes d'une région à l'autre. Alors, quelles étaient les couleurs des tenues en Provence ?
En Provence, la couleur était obtenue à partir de plantes naturelles qu'on appelle des plantes tinctoriales. Et on avait une chance extraordinaire parce que dans notre région, on trouvait toutes sortes de plantes qui pouvaient teindre les tissus. Mais à Pernes, une plante, surtout la racine d'une plante, a été extraordinaire pour teindre, c'était la garance. Et la racine de cette plante donnait une couleur rouge, appelée rouge garance, que vous pouvez voir un peu partout. Alors, elle donnait du rouge, mais elle pouvait également donner du rose, elle pouvait donner du mauve, elle pouvait donner du marron et du noir. Tout dépendait comment on l'appliquait sur le tissu. Mais il y en avait d'autres qu'on trouvait dans le Mont Ventoux. On trouvait du genêt dans le Mont Ventoux qui donnait une teinte jaune. On avait une autre plante, des petites baies de nerprun qui donnaient une couleur verte. Il y avait toutes sortes de plantes qui donnaient des couleurs.
Nous allons continuer en vous posant des questions sur la tenue des femmes. Est-ce qu'en Provence, les femmes aussi portent toujours quelque chose sur la tête ?
Oui. Les femmes portaient toujours quelque chose sur la tête, c'était même obligatoire. Les dames ne pouvaient pas sortir avec les cheveux défaits. On n'avait pas le droit de voir les cheveux. Seuls les nobles, les gens qui étaient aisés, qui avaient de l'argent, pouvaient sortir avec les cheveux qui se voyaient. Mais autrement, les dames devait porter sur la tête quelque chose, une coiffe, un fichu. Donc, les provençales comme toutes les autres dames en France, portaient quelque chose sur la tête à cette époque-là.
Qu'est-ce que la coiffe provençale a de particulier ?
Alors, la Provence fait partie de plusieurs petites régions. Vous avez Marseille, vous avez Aix, les Hautes-Alpes. Enfin, bon, la Provence, c'est une étendue de territoire, si vous voulez, assez important. Mais la coiffe provençale en elle-même, ça n'existe pas. Je veux dire, il y a plusieurs territoires. Et pour bien reconnaître d'où vient la personne, les coiffes sont différentes. Celle de Marseille ou d'Arles, l'arlésienne, vous savez, n'a pas la même coiffe. Donc on sait, si une personne a telle coiffe, elle sait qu'elle vient d'Arles. L'autre de Marseille, l'autre des Hautes-Alpes. Voilà. Et nous, donc, dans le comté avenissien, on en s'appelle, c'est la coiffe à la grecque. C'est une coiffe particulière. Il n'y a que nous qui portons ce genre de coiffe. Donc on sait d'où on vient. On sait qu'on est du comté avenissien. Voilà. C'est une coiffe où il y a deux éléments. Ça s'appelle la passe. Ça s'appelle le fond. Et vous avez ces rubans qui s'appellent les vêtes. Alors, ces vêtes, celles de devant, normalement, le jour du mariage, le mari noue les vêtes sous le menton. Ça veut dire qu'elle est prise, qu'elle est mariée. Donc voilà, nous, c'est la coiffe à la grecque.
Est-ce que les femmes portent tout le temps un tablier ?
Ben oui. Oui, parce que notre costume, disons que toutes les ouvertures, que ce soit de la robe ou de la jupe, est devant. Et pour cacher cette fente, eh bien, voilà, il y a un tablier. Même les dames qui vont à la messe ont un tablier. Il peut être, bien sûr, quand elles veulent se faire jolies, elles peuvent mettre un tablier en soie. Quand ce sont des tabliers comme ça, de fait, les tabliers sont assez étroits. Et quand ce sont des tabliers de travail, le tablier va très loin derrière. Voilà, pour protéger la jupe. Mais il y a toujours un tablier.
Est-ce que les femmes portent toujours un foulard sur les épaules et pourquoi ?
Alors, je vais... D'abord, on ne dit pas un foulard, mais on dit un fichu. Alors, pourquoi ? Ça, c'est une subtilité du costume. C'est un fichu. On porte un fichu. Alors, c'est vrai que les dames portaient un fichu sur les épaules. Ce fichu, il avait plusieurs rôles. Le premier rôle, on va vous dire, c'était un rôle un peu esthétique. Ça apportait de la beauté dans le costume. Ça mettait de la couleur dans le costume. Et le fichu était plus ou moins luxueux. Quand la dame allait travailler dans les champs, elle avait un fichu ordinaire. Mais quand la dame sortait le dimanche, elle se mettait sur les épaules un fichu un peu plus joli. Un fichu imprimé, comme on a vu tout à l'heure en bas, avec le bois. Un fichu imprimé, très joli, vous allez en voir d'ailleurs. Alors, le rôle particulier, je vous ai dit, et puis c'était aussi pour lui tenir un peu chaud aux épaules. Et quelquefois, elle pouvait défaire son fichu et elle s'en servait comme de panier. Elle mettait des choses dedans, elle le portait à la main et comme ça, elle pouvait ramener chez elle ce qu'elle avait à ramener.
Est-ce que les femmes portent toujours des robes longues et est-ce qu'il existe des pantalons pour elles ?
Alors oui, bien sûr, les dames à l'époque avaient toujours des robes longues. Il n'y avait pas de robes courtes. Plus ou moins longues, disons, selon, bien sûr, celles qui travaillaient dans les champs. Pour avoir plus d'aisance pour travailler, la jupe était un petit peu plus courte, qui arrivait quoi, juste un petit peu au-dessus de la cheville. Mais après, quand c'était des robes de cérémonie, de fait, la robe était un petit peu plus longue. Mais toujours, là, la mini-jupe, ça n'existait pas encore. Hein. Voilà. Après, pour les pantalons, eh bien non, elles ne portaient pas de pantalons. C'est arrivé beaucoup plus tard, quand, disons, les femmes ont voulu monter à cheval pour être beaucoup plus à l'aise. À moins de monter en écuyère, mais sinon on mettait des pantalons. Mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. Après, il y avait des pantalons, mais c'est venu pour mettre sous les jupes, c'était la culotte fendue. Il y avait des sous-vêtements qui étaient des culottes fendues, cette sorte de pantalon ouvert entre les jambes. Mais ça, c'est arrivé beaucoup plus tard, vers 1900.
Est-ce qu'il y a des robes pour les fêtes et des robes pour tous les jours ?
Alors, ça dépend de quel milieu on est, si on est des paysannes ou si on est des belles dames. Alors, les paysannes, malheureusement, elles n'avaient qu'une seule tenue. Donc, elles ne changeaient pas de robe tout le temps. Maintenant, quand elles voulaient se faire propre, comme elles disaient, elles ne changeaient que le fichu, le tablier et la coiffe. C'est tout. Le reste, elle le gardait tout le temps. Les dames, après, d'un certain rang, plus aisées, comme les bourgeoises ou les nobles, là, oui, elles changeaient de robe. Et même, elles avaient plus, même ces dames riches avaient plusieurs tenues par jour.
Est-ce que les tenues sont différentes en été et en hiver?
Alors, les tenues sont différentes, mais elles sont composées de la même chose. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va habiller en mannequin, Madame Gabert va vous dire ce qu'il fallait à une personne pour être vêtue correctement. Ce qui changeait, ce n'était pas tellement ce qu'elle mettait dessus, mais c'était le matériau, la chose qui permettait de confectionner la jupe. En été, la jupe était en coton. En hiver, la jupe était en laine. En été, là-haut, elle ne portait qu'un corset. En hiver, sur le corset, elle portait un caraco de laine. Il fallait bien qu'elle se protège un tout petit peu. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles étaient peu vêtues par rapport à vous aujourd'hui. Ce qui était surtout mis au chaud, c'était les jambes. Mais là-haut, elles portaient peu de choses. Elles avaient une chemise, mais tout ça, ça va être dévoilé par Madame Gabert tout à l'heure. Elles ne portaient qu'une chemise, un corset, un fichu, et puis c'était tout. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de dames qui attrapaient des angines, qui étaient malades des poumons, qui avaient de pneumonie, beaucoup, parce qu'elles étaient très peu couvertes en haut. Et comme les maisons étaient peu chauffées, eh bien, elles avaient froid. Par contre, en bas, il y avait des bas ou des chaussettes, une chemise, plus un jupon, plus la jupe. Donc le bas était mis au chaud, mais là en haut pas tellement.
Est-ce que les femmes devraient toujours porter des manches longues?
Oui, elles portaient tout le temps des manches longues, parce qu'il ne fallait pas voir la chair, il ne fallait pas voir la peau. Disons que l'hiver, d'abord, elles portaient les manches jusqu'en bas, parce que, comme vous a dit Élise tout à l'heure, parce qu'elles avaient froid, maximum, juste au-dessus du coude. Voilà, juste au-dessous du coude. C'est tout. Il ne fallait pas voir les bras, il ne fallait pas voir le corps, comme maintenant, les débardeurs, les petits tops, les petites bretelles, ça, c'est pas possible. Même la cheville. Avant, il ne fallait même pas voir les chevilles. C'était très mal vu. Donc, manches longues, oui.
Est-ce que les femmes portent des collants?
Alors non, les collants n'existaient pas. Et non, les collants tiennent avec des élastiques, tout ça, et l'élastique n'existait pas. Des paysannes, je vais vous dire franchement, dans les sabots, ce n'était ou de la paille ou des vieux chiffons pour protéger leurs pieds. Après, il pouvait y avoir des grosses chaussettes de laine ou alors des chaussettes qui arrivaient juste au-dessus du genou, attachées avec un lien. Et c'est tout, que ça. Alors bien sûr, selon, toujours pareil, le rang social, le bas, si vous voulez, était plus ou moins fin, plus ou moins beau, ou même pouvait être brodé.
Maintenant, nous allons parler des hommes et de leur tenue. Est-ce que les hommes portaient toujours des chemises?
Oui, il y avait toujours une chemise. Alors, la chemise était un élément chez l'homme, un élément de propreté. C'est-à-dire que c'est un vêtement qui se met sur la peau. Vous avez des t-shirts, vous avez des caleçons. Les hommes n'avaient que la chemise qui arrivait au moins jusqu'au genou. Et elle était en chanvre, bien sûr, en matière un peu plus épaisse, vous en verrez dans le musée tout à l'heure, pour les paysans. Et au fur et à mesure, bien sûr, toujours pareil, vous allez dans le rang social où les gens sont beaucoup plus riches, le tissu devient beaucoup plus fin, beaucoup plus agréable à porter. Alors pour les chemises, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, quand elles étaient neuves, toutes neuves, le tissu était très très dur à porter et gratté à la peau. Donc ils étaient malins, des fois les gens un petit peu aisés, donnaient une chemise à porter aux domestiques.
Est-ce que le tissu en jean existait déjà pour les pantalons ?
Le jean existait déjà, puis fort longtemps même. Je vais raccourcir un peu parce que l'histoire est un petit peu longue. Quand il y a eu la ruée vers l'or en Amérique, il y a un monsieur qui s'appelle Levi Strauss qui est parti en Amérique vendre ses grosses toiles, ça s'appelle du serge, pour aller, disons, faire les bâches des chariots. qui avait, vous avez tous vu des films de cow-boys, il y a toujours des chariots avec des grosses bâches dessus. Donc il est allé là-bas pour vendre ses bâches, qui est fait avec ce tissu, comme le jean, ça s'appelle, mais qui était blanc, couleur naturelle. Et il y a un monsieur qui a dit là-bas, nous tes bâches on n'en veut pas, je préférerais que tu fasses avec des habits de travail, avec cette bâche solide, parce que pour la ruée vers l'or, les hommes ils étaient avec leur pelle, leur pioche, et il fallait des habits assez solides pour pouvoir travailler comme il faut. Et donc voilà, c'est parti de là. Et après, ils ont ce pantalon, parce que blanc c'était salissant, ils les ont teint en bleu. Et voilà comment est arrivé le jean.
Vous venez d'écouter un reportage réalisé grâce au soutien du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, SMAEV, dans le cadre d'un appel à projet éco-citoyenneté et solidarité à l'école.